Et au menu de notre club cet après-midi, l'équation star de la physique E égale MC2, un petit essai en clownologie mathématique et deux cahiers quiz et jeux pour découvrir les origines de l'homme et celles de l'univers. Je vous présente mes invités dans un instant et puis ce sera aujourd'hui en fin d'émission le dernier rendez-vous avec la campagne officielle pour les législatives. C'est Stéphanie Texier qui est aux commandes de ce club préparé aujourd'hui par Benoît Tonson avec Chantal Le Montagnier.
La tête au carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et je salue mes invités du club, l'astrophysicien Jean Audouze, le clown mathématicien Cédric Auboui et le physicien écrivain Christophe Galfard. Bonjour à tous les trois.
Bonjour. Bonjour.
Bienvenue Jean Audouze, on va pouvoir donc tester nos connaissances cet été sur la plage grâce à vous et à ce cahier quiz qui sort aujourd'hui, publié avec Le Monde et le CNRS, autour d'une part des origines de l'homme, mais en ce qui vous concerne autour des origines de l'univers. Est-ce qu'un jour il sera possible de répondre à cette question, qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang?
Eh bien, ce sera difficile, c'est une question qu'on se pose. Il y a des gens qui ont des théories, mais c'est une question extrêmement difficile parce que elle rentre dans le champ, disons, de plutôt de la métaphysique que de la physique.
Voilà. Ouais. Donc on fait pas quand même le deuil de cette question.
Non, on ne fait pas le deuil. Il y a des gens qui inventent des systèmes qu'on appelle épiroptiques où vous avez des, si vous voulez que je me lance, des branes qui donc il y aurait plusieurs univers et nous on serait dans une bulle. Ouais. Donc voilà, qui est né il y a 13,8 milliards d'années, puis voilà.
Christophe Galfard a peut-être la réponse à cette question.
Non, la réponse, je ne sais pas, mais la question est amusante quand vous y réfléchissez, parce que vous demandez ce qu'il y avait avant le Big Bang. Mmh. Si on définit le Big Bang comme la naissance de l'espace et du temps, est-ce qu'on a le droit de parler de avant que le temps existe?
Oui, mais avant le mur de Planck, par exemple, on peut imaginer ce qu'il y avait. Hein.
Bien sûr, on peut. Ouais. Non, mais rassurez-vous, il y a des collègues qui planchent
sur la question. Ouais. Christophe Galfard, c'est l'équation E égale MC2 qui vous intéressait pour votre nouvel ouvrage qui sort chez Flammarion. C'est l'équation la plus célèbre de tous les temps, mais pourquoi au juste alors?
Pourquoi elle est célèbre ou pourquoi je me suis intéressé à elle?
Pourquoi c'est la plus célèbre?
Parce que d'une certaine manière, elle est Einstein qui en est le père, et l'icône peut-être de la science du XXe siècle. C'est pour moi d'une certaine manière l'entrée dans une nouvelle étape de ce qu'est l'humanité, en tout cas par rapport à la connaissance. Le E égale MC2 marque le début d'une nouvelle histoire, une nouvelle partie de l'histoire humaine.
La science du XXe siècle qui rentre justement de plein pied en 1950. Avec E égale MC2. Cédric Auboui, vous êtes un drôle de spécimen, à la fois clown et mathématicien, clown et scientifique, et vous publiez à compte d'auteur un petit essai en clownologie mathématique, ça s'appelle « À l'endroit de l'inversion ». Est-ce que, Cédric Auboui, le clown peut aider à mieux comprendre les maths?
Ah oui, j'en suis convaincu de ça. Ouais. Oui. Je le constate, on nous le dit après les spectacles, les enseignants aussi. Voir les choses de travers, ça permet d'avoir... voir sous un autre angle, ça permet de mieux comprendre.
Oui. Ouais, donc le burlesque, pour aider à mieux comprendre les sciences, on va en parler avec vous. Par l'absurde, vous faites ressortir la logique, on va justement en discuter, avec également les questions des auditeurs qui nous rejoignent sur franceinter.fr.
Fire.
Oumou Sangaré avec Fadjamou à l'instant.
Le club carré sur France Inter.
Et dans notre club cet après-midi, donc un cahier jeu autour des origines de l'univers avec Jean Audouze, égal MC de l'équation de tous les possibles avec Christophe Galfard et puis un petit essai en clownologie avec Cédric Auboui. Et vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Jean Audouze, d'abord un petit mot tiens, de politique de recherche.
Oui.
Parce qu'avant la campagne pour les élections, vous avez signé une tribune hein, pour interpeller les candidats et leur dire d'abord... Quand on lit votre tribune, c'est d'abord donnez-nous de l'argent, hein, quand même. Hein.
C'est un peu vrai parce que on parle beaucoup de réduction de fonctionnaires, de crédits, etc. Mais on oublie que si la recherche et si l'enseignement, on met de l'argent là, il y aura des retours économiques considérables. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'il y ait un peu de logique les décisions gouvernementales.
Absolument. Et on peut lire d'ailleurs cette tribune. Il ne faut pas qu'on parle de politique parce que c'est vrai qu'on est en campagne pour législative encore. Mais on peut lire cette tribune, en tout cas, sur le site de Science Avenir qu'il avait publié en décembre dernier. Christophe Galfard, pas de politique derrière E égale MC2, l'équation de tous les possibles qui sort donc chez Flammarion. Alors c'est un petit livre, hein, le principe est là pour justement... expliquer cette équation que tout le monde connaît, sans évidemment pouvoir l'expliquer vraiment, parce que d'abord, il faut expliquer les lettres, ce qu'elles veulent dire. E égale MC2. Alors, c'est quoi? On va être très scolaire, mais c'est important.
Commençons par ça. Ouais. E pour l'énergie, M pour masse, et C, il se trouve que c'est une petite lettre, mais en vérité, c'est un chiffre.
Ouais.
C'est la vitesse de la lumière, et C2, c'est la vitesse de la lumière au carré.
Voilà.
Donc, ce que cette équation dit, c'est un taux de change, en fait, entre l'énergie et la masse, avec le taux de change qui est donné par ce chiffre, qui est C2. Ouais. Qui est énorme.
Ouais.
C'est un chiffre énorme. Et il permet de... Voilà, ça nous dit que si on veut transformer de la masse en énergie, c'est possible avec un gain colossal d'énergie. Et si on veut transformer de l'énergie en masse, c'est possible aussi, mais il en faut quand même pas mal.
Alors ce qu'on comprend également en vous lisant, finalement, c'est que l'idée du M, de la masse, c'est aussi la petite révolution de cette équation quand même, hein. C'est ce qu'a apporté Einstein, là, hein, par rapport à Newton et tous ceux qui l'ont précédé.
Exact. Ouais. Dans notre conception même à nous, hein, de ce qu'on a appris à l'école ou dans notre intuition de tous les jours, la masse, c'est quelque chose qui change pas trop. Si vous pesez ce matin et que vous vous reposez cet après-midi en oubliant ce que vous avez mangé, etc., vous faites à peu près le même poids.
En priori, oui.
A priori, oui. Mmh. Maintenant, si je vous dis que si vous êtes dans un vaisseau spatial qui va extrêmement vite... Eh ben, votre poids, c'est plus le même. La masse qui est dans votre corps ne sera plus la même. C'est ça, une sorte de révolution dans cette équation. C'est une redéfinition de ce qu'est la masse. Et que cette masse-là n'est pas...
Ouais. Et quelle redéfinition, Jean Audouze, hein, et Cédric Auboui, je vous passe la parole juste après.
Mais c'est vrai, c'est à partir du fait que plus vous allez vite, plus vous êtes massif, que c'est le E égale MC2, se met à apparaître. Alors le C, il est très grand pour cette équation, et il est très petit pour les astronomes, mais j'aurai peut-être l'occasion de le dire tout à l'heure, parce que ça limite quand même l'observation lointaine.
Cédric Auboui.
Oui, moi je voulais juste poser une question à Christophe, on parle de masse là, mais est-ce que on sait si la masse inertielle et la masse grave coïncident ou pas?
C'est-à-dire la quantité de matière. Les amis, de quoi on parle? Masse grave et masse inertielle. Masse inertielle,
pardon. On peut expliquer ça en deux secondes. Il y a par exemple, quand vous bougez, il y a une énergie qui est liée avec votre mouvement. Et on sait très bien que si vous êtes, une plume vous tape dessus à 10 km par heure, ça vous fera pas la même effet que un tank, par exemple, qui vient à la même vitesse. Donc ça c'est la masse inertielle, c'est la masse en mouvement. Et la masse grave ou gravitationnelle, comme vous voulez, c'est ce que la Terre attire vers le bas. Alors, il y avait aucune raison, peut-être, a priori, que ce soit les mêmes. Mais il se trouve qu'il y a un postulat qui dit que ce sont les mêmes. Et aujourd'hui, on a pas la moindre expérience qui nous dit qu'elles sont différentes. Mmh. C'est exactement la même chose. La technologie actuelle ne nous permet pas de distinguer les deux, pour peu qu'elles soient éventuellement
Strictement égales.
Ouais. Pourquoi vous aviez envie d'expliquer cette équation, Christophe Galfard? Parce que certes, elle est très connue, mais qu'est-ce qu'il y a d'autre derrière finalement? Qu'est-ce qu'elle nous raconte?
Elle a transformé un petit peu le vent. Je pense le 20e siècle dépend de cette équation d'une certaine manière, ou en tout cas de ce que cette équation représente.
Tout le 20e siècle.
Tout le 20e siècle.
Ah carrément, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère.
Non, mais je pense que c'est vrai.
La bombe d'Hiroshima, c'est ça.
Ouais. Les bombes atomiques. On va commencer au départ, si vous voulez. D'où elle vient cette équation de masse, énergie, etc. Il y a un postulat qui a été fait par Einstein, peut-être par d'autres aussi, mais qui dit qu'en gros la vitesse de la lumière dans l'espace est toujours la même pour tout le monde.
Ouais, dans le vide, hein, donc dans ça c'est important.
Hein. Voilà. Ouais. Et c'est très étrange de dire pour tout le monde. Si moi je suis par exemple sur le bord d'une route et que je vois une voiture passer, la voiture n'aura pas la même vitesse pour moi que pour quelqu'un dans la voiture par exemple. Il y a quelque chose qui change. Dans la voiture, la vitesse de la voiture ne bouge pas par rapport à vous. À l'extérieur de la voiture, la voiture elle bouge. La lumière non, elle va à la même vitesse pour tout le monde.
Et quelle est cette vitesse?
Bon, disons 300 000 km par seconde.
Vous donnez la véritable vitesse, 299 000
mètres par seconde. Mais ce qui est amusant avec ça, c'est qu'imaginez du coup, je ne sais pas, que vous avez un petit vaisseau spatial particulier et que vous allez à la vitesse de la lumière, moins 1. Ouais. Moins 1 km par heure. D'accord? Vous avez une bonne balle de tennis dans la main et vous dites, je vais la lancer devant moi. Vous la lancez de toutes vos forces. De toutes vos forces, la balle lancée va à plus de 1 km par heure. Donc elle devrait aller plus vite que la vitesse de la lumière, ce qui n'est pas possible. Du coup, où est partie l'énergie qui était dans votre bras et que vous avez mis dans la balle? Eh bien, elle est devenue de la masse. C'est ça que veut dire E égale mc2. L'énergie qui était dans votre bras s'est transformée pour que la balle que vous aviez devienne une balle plus lourde. Ouais.
Justement, Christophe Galfard, est-ce qu'un jour on pourra voyager à la vitesse de la lumière pour aller vraiment très très vite? Non, Jean Audouze, pour aller voir des exoplanètes?
Ce
serait chouette, ça, non?
Ce serait très bien, mais malheureusement, impossible.
Il faudrait que nous soyons lumière, hein, c'est ce qu'on racontait.
Il faut enlever toute la masse de notre corps pour devenir lumière, et je crois pas que quelqu'un arrive. Si quelqu'un vous le propose, c'est probablement un charlatan, parce que ça, on ne sait pas faire ça.
On ne nous vendra pas le voyage, pourtant ce serait très pratique. Cédric Auboué, vous avez parlé de l'équation, vous, sur scène, ou pas? Vous qui faites du théâtre burlesque pour parler de la science.
Non, de l'équation E égale MC2, non, celle-là, non, mais
De relativité.
De relativité, on en parle dans plusieurs spectacles. Ouais. Et d'Einstein aussi, on aborde l'ascenseur d'Einstein à un moment.
C'est un bon personnage, ça aussi, pour le théâtre, quand même, Einstein, j'imagine, non?
En tant que figure, oui, avec son look et tout ça, quoi. Pourquoi pas.
Oh, bon, ça a l'air de drôlement vous emballer, dites donc.
je suis plus axé, moi, sur le contenu scientifique. C'est ça qui m'intéresse, d'aller dans les spectacles, plus que d'aller revisiter les ambiances de la science qui sont plus à côté.
Christophe Galfard, il y a quelque chose d'intéressant aussi dans cette équation, c'est sa simplicité, c'est son aspect esthétique, parce qu'elle est très belle et elle est très simple.
Il n'y en a pas 100 000.
C'est ce qui a fait son succès aussi.
Celle-là, elle est magnifique, par sa simplicité aussi, de relier comme ça deux concepts si différents en une équation si jolie. Et par exemple, tout à l'heure, vous disiez, il y a la bombe atomique par rapport à cette équation.
C'est Jean Audouze tout de suite qui
l'a évoqué. C'était vous. Parce qu'il y a aussi, d'une certaine manière, une envie de réhabiliter cette équation et de la détacher de uniquement cet aspect-là.
De cette horrible application.
De cette horrible application qui est absurde,
alors,
etc.
Parce que c'est quoi le lien entre E égale MC2 et la bombe atomique? Alors, c'est quoi?
C'est simplement que lorsque une bombe atomique, les bombes A, c'est lorsque vous fissionnez de l'uranium, eh bien la masse qui est donc perdue par la fission, eh bien c'est l'énergie de l'explosion de la bombe. Alors maintenant on fait des bombes thermonucléaires qui ressemblent à ce qui se passe dans le Soleil, c'est-à-dire qu'on prend 4 atomes d'hydrogène en un atome d'hélium. Et dont quatre noyaux d'hydrogène en un noyau d'hélium. Et là, la différence de masse, eh bien, soit elle est explosée dans une bombe, soit à l'intérieur du Soleil, c'est ça qui le fait vivre depuis 4,5 milliards d'années.
Ouais. Christophe Galfard.
Il y a quelque chose d'extrêmement amusant. Quand vous regardez la matière qui est autour de nous, la matière dont on est fabriqué, qui est dans nos corps partout, on peut les classer par taille. Du numéro 1, le plus petit, l'hydrogène, après il y a l'hélium, etc., le carbone, l'oxygène, 6, 8, et jusqu'au fer. Au fer, il y a une limite, et après il y a les atomes plus grands que le fer, plus gros. si vous voulez. Et dans la nature, si vous collez ensemble deux petits atomes plus petits que le fer, pour en fabriquer un plus gros, vous allez gagner de l'énergie grâce à E égale MC2. Il y a une partie de la masse. Quand vous avez deux petits atomes, vous les collez, l'atome que vous obtenez est moins lourd que les deux que vous aviez avant. Il y a une partie de la masse qui est devenue énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle la fusion thermonucléaire, ce que disait Jean il y a deux secondes. C'est ce qui nous a permis de comprendre pourquoi les étoiles brillent.
Oui.
Personne ne comprenait pourquoi les étoiles brillent dans l'univers. Ouais.
Alors ça, c'est l'autre façon de voir l'application de l'équation.
Mais c'en est une directe.
Ouais.
Et de l'autre côté, dès que vous êtes sur des atomes plus gros, c'est-à-dire des atomes qui ont été fabriqués lors d'explosions d'étoiles, eux, ils ont emmagasé une énergie qui, en les cassant, peut redonner cette énergie. C'est la fission qui est utilisée dans les centrales éventuellement et dans les bombes aussi parfois. Mais il y a tous ces et il y a aussi la radioactivité qui libère de l'énergie et qui est complètement naturelle.
On va écouter un extrait d'un documentaire E égale MC2 qui était sorti en 2005.
Écoute, je crois avoir trouvé la connexion entre l'énergie et la masse, si j'ai raison. Alors l'énergie et la masse ne sont pas absolues, ne sont pas distinctes. Et elles peuvent être transformées l'une en l'autre. L'énergie peut devenir masse et la masse peut devenir énergie. Mais il est faux de croire que l'énergie est égale à la masse. L'énergie, écoute bien ceci, est égale à la masse fois la vitesse de la lumière au carré.
Si tu veux, je peux revérifier tes calculs.
Voilà.
Il y a un côté un peu inquiétant, là, dans la.
Oui, c'est vrai. Mais en même temps, c'est, le coup de génie d'Einstein, qui est dans cette phrase de ce documentaire. Alors, qu'est-ce qu'il en reste, si on peut dire la phrase comme ça, parce qu'elle paraît étrange, quand même, C'est toujours aussi solide, E égale MC2.
Si vous voulez, pour moi, c'est une théorie qui est parfaite en science. C'est une théorie dont on connaît les limites et on sait ce qu'il y a derrière et pourquoi. La gravitation de Newton, par exemple, c'est une théorie parfaite parce qu'on sait où sont ses limites, on sait où elle ne marche plus et on sait que derrière il y a une autre théorie qu'on connaît. E égale MC2, on n'a pas trouvé de limite à cette théorie, on n'a même pas trouvé la moindre expérience qui pourrait dévier d'un résultat qui correspond à ça. Ça arrivera peut-être un jour, mais aucune de nos technologies actuelles n'en voit même un début. Ouais. Donc on est 112 ans plus tard. Il n'y a toujours rien qui soit le moindre décalage par rapport à cette théorie.
Voilà, qui a donc été proposée en 1905 par Albert Einstein. On a pensé un moment qu'on allait battre la vitesse de la lumière avec l'affaire des neutrinos et l'expérience Opéra, mais ça s'est cassé la figure.
Oui, très vite.
Mais vous vous souvenez, à l'époque, c'était incroyable. Quoi.
Personne n'y a cru.
Je me souviens, on a fait l'émission.
Je ne crois pas à grand-chose, mais la constance de la vitesse de la lumière, je crois que... On a essayé, il y avait aussi les quasars qui se déplacer avec des vitesses supraluminiques.
Einstein reste donc toujours aussi solide. Christophe Galfard, E égale MC2, l'équation de tous les possibles, après l'univers à portée de main qui avait rencontré un grand succès et ce petit livre est paru aux éditions Flammarion. Clown et mathématicien, c'est possible, il en est la preuve, il est notre invité dans un instant, Cédric Auboui.
J'aimerais tant te dire ce que cache mon sourire au bout de ma langue, syllabe qui tremble. Mais comment choisir le plus fidèle, le plus riche, le plus beau de tous les mots? Jeunes âmes ont peur en exprimant des émotions fortes de briser la magie des premiers instants. On pourrait se contenter de citer les plus grands, mais avouons que parfois les mots ne sont pas à la hauteur des sentiments. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. J'aime quand tu es là. Embrasse-moi. Même si j'aime tant jouer de ma bouche, toutes mes onomatopées tournent en boucle. Crique-toi, crique-toi. Toutes mes paroles s'effilent quand tu me scotches. Ma voix stoppée dans sa course, je chute en plein élan. Tes yeux de sniper m'ont
sont ciblés dans le viseur. Un point rouge placé sur mon petit cœur qui battit fort.
Mes onomatopées, c'est la voix de Mesparo à l'instant sur France Inter. Et ça discute dans le studio du Club de la Tête au Carré, autour de la relativité, autour de la vitesse de la lumière. Cédric Aubouy, vous êtes mathématicien de formation et clown, et donc vous avez fondé l'Île Logique. C'était il y a une dizaine d'années maintenant, hein,
c'est ça ouais.
Compagnie de théâtre et clown de sciences fondamentales. Et votre idée, c'est d'aborder les sciences théoriques par des moyens artistiques burlesques. Ça, c'est chouette comme idée. Comment ça a commencé pour vous au départ, alors? Vous étiez mathématicien à la base, avant d'être clown?
Oui, j'ai enseigné en mathématiques, j'ai fait des études de logique, mais j'ai aussi toujours joué des chansons, je faisais des spectacles de rue, donc il y a une dizaine d'années, j'ai voulu regrouper comme ça mes deux compétences, effectivement pour monter l'Île Logique. Et j'ai fait le choix des sciences théoriques, je trouve ça intéressant les débats qu'on a aujourd'hui, là, parce que, outre le fait que les sciences appliquées, je dirais, un ingénieur qui veut fabriquer un téléphone portable, un pont, une simple chaise... Il fait ça dans la mesure où il veut améliorer le monde et quelque part il est insatisfait, alors qu'au contraire le théoricien scientifique il essaye de comprendre le monde, de l'expliquer, il est dans l'émerveillement et je trouve que c'est beaucoup plus pratique d'aller dans les sciences abstraites pour ensuite passer dans le théâtre et le clown parce que justement on n'est pas contraint par le dur, la réalité quoi. On peut partir dans l'imaginaire.
Plus alors c'est vrai qu'au départ on se dit bon le lien entre clown et mathématicien et puis c'est ce que vous expliquez vraiment dans l'ouvrage, c'est la façon dont on peut éclairer la science par le biais justement du burlesque Jean XII. Mais l'idée est formidable parce que c'est vrai que
alors moi ce que j'ai trouvé c'est fabuleux. Je disais tout à l'heure à Cédric qu'il y avait un de ses collègues qui s'appelle Alexandre Astier qui a fait un spectacle pour expliquer l'astrophysique. Je veux dire, est totalement burlesque. Oui. Et donc le burlesque, mais c'est le principe, pardonnez-moi, mais du Palais de la Découverte, c'est de croire que le non sérieux n'est pas sérieux, c'est au contraire.
Dont vous avez été le président, hein, Palais de la Découverte, entre parenthèses.
Oui, c'est ça. C'est aussi.
C'est cette idée du sérieux et du non sérieux. Et puis vous parlez aussi du statut de clown dans tout ça, et de l'aspect relatif du clown, de l'aspect aussi très cadré que le clown doit être aussi sur scène, dont tout se mélange et se répond au fond. Hein.
Oui, tout à fait. Le clown, c'est l'acteur qui est cadré. Ouais. Une différence entre l'acteur et le personnage. Et le personnage, lui, le clown, il n'existe pas vraiment. Il fait que passer, quoi.
Ouais. Et c'est ce que vous dites, d'ailleurs. Il n'existe pas. Le clown n'existe pas.
Ben non, dans la mesure où c'est un personnage, il est fictif. Il arrive, il vit quelque chose, il repart. Un clown, ça peut n'avoir jamais mangé, ça peut n'avoir jamais vu d'enfant, ça peut... vivre tout ça, ce qui dans la réalité n'est pas possible.
Alors ça s'appelle « À l'endroit de l'inversion, petit essai en clownologie mathématique ». Alors c'est publié à Compte d'auteur aux éditions L'Île Logique. C'est préfacé quand même par Cédric Villani et Bertil Sylvander, qui est clown à la liste et ancien directeur de recherche à l'INRA, c'est ça?
Oui, ouais. Tout à fait.
Il fait des analyses burlesques.
C'est le bataclown qu'il a créé avec d'autres, propose en effet de la clown-analyse. Oui.
Ouais. Où est-ce qu'on peut le trouver alors cet ouvrage du coup
puisqu'il est à l'endroit de l'inversion?
Ouais.
Eh ben alors on peut le trouver en allant sur le site de l'Île Logique, ma compagnie de théâtre, et puis il faut cliquer là où c'est marqué. Mm-hmm. Et sinon, on peut aller en Bretagne, dans le Morbihan, dans la ville de Grandchamp, à l'épicerie chez Bouquin. Il y a mon bouquin.
Voilà, c'est le seul endroit où on peut le trouver.
Pour l'instant,
en France,
j'ai pas eu le temps de. Oui,
voilà. Donc dans le Morbihan, vous allez dans cette épicerie et vous trouverez le livre de Cédric Aubouy. On va écouter un extrait d'un de vos spectacles parce que vous tournez avec huit spectacles différents. Et ce spectacle concerne Évariste Galois et Poincaré.
Oui. C'est pas facile, hein, le miroir. C'est la symétrie, ça. C'est ambigu. Parce que l'un peut prendre la place de l'autre. C'est pour ça que c'est difficile de distinguer notre main droite de notre main gauche, vous comprenez? Or, ce qui nous intéresse, nous, c'est d'avoir des informations, par exemple, sur ce que sont nos mains.
Et si on veut avoir des informations sur ce que sont nos mains, on en apprendra plus à regarder ce en quoi elles se ressemblent plutôt que ce en quoi elles se distinguent.
Oui.
Ah, il faut savoir préserver l'ambiguïté.
Mais c'est galois.
C'est ça. Galois.
Les points communs galois. Plutôt que les différences,
évidemment.
Si nous avions, par exemple, une phrase qui parle de ce que sont les mains, voyez, eh bien, on en apprendrait plus sur ce que sont les mains si le sens de cette phrase reste inchangé, même quand on permute les mains à l'intérieur de la phrase.
Ah, oui, par exemple, la phrase « Avec cette main-ci, je peux taper sur celle-là ».
Eh ben oui,
Eh bien, regardez, si vous échangez, ça fait avec cette main-là, je peux taper sur celle-ci. Et voilà. Bon, ben, les deux sont vrais. Et on en déduit une information supplémentaire sur les mains. On en déduit que les mains, ça peut applaudir.
Ah oui,
voilà, démonstration en direct devant le public avec Monsieur Pile et Monsieur Face. Oui. Spectacle gallois Poincaré, Mythe et Math, écrit en collaboration justement avec Cédric Villani et Étienne Gis, c'est ça?
Oui, enfin, Cédric Villani nous avait fait la commande de ces deux spectacles qu'on a réunis en un seul, en fait, qui fait toute une histoire. Et Étienne Gis m'a beaucoup aidé sur les travaux de Poincaré. C'est un spécialiste de Poincaré. Là.
Ouais. Oui. Comment vous travaillez alors pour ces 8 spectacles différents, Cédric Aubouy? Alors, ces thèmes, vous allez les chercher où? Et à chaque fois, vous vous faites aider par des scientifiques?
Pas forcément aider, parce que je vais aussi me documenter de mon côté. Certaines fois, là, par exemple sur Poincaré, c'était, je maîtrisais pas tout. Effectivement, Étienne Gis m'a beaucoup aidé. Mais je vais chercher des connaissances à droite à gauche, effectivement. Après il y a des techniques pour aller vers le théâtre. On l'utilise aussi quand, par exemple, je fais faire des ateliers de théâtre et mathématiques à des élèves ou à des étudiants, ouais, qui vont créer des scénettes eux-mêmes sur leur travail, sur ce qu'ils font en classe. Et il y a des techniques pour emmener ça vers le burlesque, le clown. Ouais.
Est-ce que ça fait aimer les maths aux élèves, ça, justement? Des élèves réfractaires qui, tout d'un coup, hop, verraient les mathématiques et les sciences d'un autre œil par le théâtre. Ça fonctionne ou pas, alors?
Ben, je dirais qu'en tous les cas, tous, ils disent que c'est mieux que les cours de maths, évidemment. Mais le problème, oui, c'est que ça se substitue pas aux cours de maths. Mais ouais, oui, en général, ils sont enthousiastes et contents.
En tout cas, c'est une bonne porte d'entrée. Vous parlez de l'émergence de la création. Alors ça, c'est intéressant, parce qu'on pourrait tout à fait l'appliquer aussi à une personnalité comme Einstein. Vous dites, le vide, c'est le lieu de la trouvaille. Créer, c'est être prêt à recevoir du nouveau. Tant en art qu'en science, la sérendipité, on en a parlé, joue un rôle majeur dans le processus de découverte et de création. La créativité peut se travailler. Pour cela, il faut remettre en cause l'ordre, détruire les enchaînements logiques, favoriser une indiscipline de la pensée. C'est ça, au fond, hein?
Ben oui, je crois qu'il faut bousculer, renverser les grands chercheurs dont on parlait, Einstein, etc. On tous était dans cette situation-là d'accepter, de mettre les choses de côté, quoi, de faire un pas de côté, regarder autrement, ouais, bousculer. Le vide, bah oui,
c'est ça.
On ne peut remplir que du vide, on ne peut pas remplir du plein.
Jean 12. Ben, le vide, vous savez, c'est un thème que un de mes co-auteurs, Michel Cassé, travaille, et c'est vrai que le vide n'est pas vide. Dans le vide, il y a tout, et il y a évidemment les... Et c'est ce qui est bien avec le jeu, hein, qui nous rassemble. Hein. Vous jouez, mon petit bouquin, c'est une somme de jeu. C'est effectivement qu'on fait un pas de côté. Enfin, moi, j'aime beaucoup cette expression, parce que on ne découvre vraiment les choses que lorsque... Si vous regardez toujours la même scène, vous voyez rien. Si vous vous mettez de côté, vous commencez, et où il faut une irrégularité. L'irrégularité est importante.
C'est ça. Il faut être indiscipliné aussi, d'une certaine manière.
Indiscipliné, oui, oui. Il faut
renverser l'ordre des choses.
C'est ça. Il faut être, comment dire, obstiné. C'est-à-dire, lorsqu'on pense qu'on a raison, parce que c'est pas toujours possible. Par exemple, les Chinois, ils ont un gros problème, parce que effectivement le maître a un pouvoir énorme, et donc leur créativité.
Mais même dans notre scolarité, le maître a un pouvoir énorme.
J'en savais rien pour la Chine, mais en tout cas, c'était bien comme ça ici. Oui,
Christophe Galfard, sur le vide qui permet justement les grandes idées.
Bah, pour dire à quel point Einstein est partout, c'est que même l'apparition de choses à l'intérieur du vide, c'est EGMC2 qui le permet. Qui donne cette possibilité. Et effectivement, on fait souvent un parallèle. On croit souvent que les sciences sont quelque chose de rigide, de figé, de c'est ainsi et pas autrement. Mais ça ne peut pas être plus l'inverse. Oui. Les découvertes se font là où on ne sait rien.
Et puisqu'on parle d'Einstein, il ne faut pas oublier qu'il est aussi un des acteurs de la mécanique quantique. Et tout ce que vous dites, justement, pour que le vide ne soit pas vide, il faut qu'on fasse appel à la mécanique quantique avec les particules.
Dans des échelles très petites. Oui, là, hein. Ouais. Cédric Aubouy, un dernier mot sur ce livre, À l'endroit de l'inversion. Parce que vous terminez par une proposition de charte pour l'expression d'une pensée critique. Ça, c'est intéressant aussi.
Oui, je vais comment faire la transition avec le clown, parce que dans le livre, j'aborde pas mal de choses. L'idée, c'est que... La pensée critique, pour moi, c'est ce qui peut sauver le monde. Je veux dire, apprendre à réfléchir correctement, c'est quand même la base des choses. Et à mon avis, pour y parvenir, il faut être capable justement de renverser les choses, encore une fois, de regarder autrement, de réfléchir de manière alternative, et, mais en même temps d'avoir de la rigueur. Quoi.
Ouais. Ouais. La liberté d'expression, c'est un droit imprescriptible. Chacun doit cependant assumer les conséquences éventuelles de ses propos. C'est pas parce que tout le monde le croit que c'est vrai. Ne pas confondre les faits et l'interprétation qu'on en donne. Connaître les faits n'implique pas de savoir la cause. Et puis cette charte que vous proposez, elle est modifiable, discutable, et donc ne prétend pas être exhaustive.
Elle appartient à l'humanité tout entière. Hein, voilà. C'est...
Comme la science.
Ben oui, tout à fait.
À l'endroit de l'inversion, Cédric Auboui, petit essai en clownologie mathématique. Et c'est donc aux éditions L'Île Logique, c'est à compte d'auteur. Donc pour ceux qui souhaitent se procurer votre ouvrage, il faut aller sur le site de L'Île Logique, tout comme ceux qui souhaitent vous faire venir avec l'un de vos spectacles partout
tout
en France.
Tout à fait.
Cédric Auboui, vous restez avec nous dans un instant. On va jouer avec Jean Audouze pour connaître tout sur les origines de l'univers. Do you think I'm sexy avec Rod Stewart sur France Inter.
La tête au carré. Le club.
Jean Audouze, directeur de recherche émérite CNRS à l'Institut d'astrophysique de Paris. Et donc, vous venez nous présenter un cahier qui paraît dans les kiosques, je crois que c'est aujourd'hui.
Hein, oui, c'est ça.
Pour jouer et apprendre tout au long de l'été autour des origines de l'univers. Il y a un autre cahier publié par Le Monde avec le CNRS édition autour des origines de l'homme. Et donc, pour l'univers, c'est vous qui avez rédigé, les entrées, entre autres.
Les entrées, puis quelques-uns des petits jeux qui SM dans le... Puisqu'il y a la partie gauche qui est donc... qui est descriptive, et puis la partie droite où on propose des petites questions au lecteur.
Avec la petite souris de Plantu. Hein,
voilà, oui.
Qui s'amuse avec la planète.
Voilà, c'est ça. Il y a un point commun avec Cédric, hein, je crois, votre prénom.
Oui, Cédric Auboui.
C'est le jeu, c'est-à-dire que bon, apprendre, d'abord, ça va être une joie, ça va être un plaisir. Et on veut, moi, c'est ça que je souhaite, c'est que les gens prennent du plaisir avec ça.
Ouais.
Et puis, vous savez, au mois d'août, il y a donc la nuit des étoiles. On peut imaginer qu'ils vont avec leur famille se promener.
Ah, vous faites déjà le scénario idéal finalement du lecteur de votre cahier sous le ciel étoilé de l'été. Hein, pourquoi pas?
Oui, mais bien sûr. Mais écoutez, c'est le moment. C'est le moment de. Les nuits vont être belles. On va voir les choses.
Est-ce que vous, qui êtes astrophysicien, vous regardez le ciel? Alors là, je parle vraiment. Au ras des pâquerettes, hein, sans lunettes, avec toujours autant de plaisir.
Moi, toujours. C'est énormément, énormément. Ouais. Ah, oui. Et mais je fais ça. Enfin, ce que je fais, par exemple, en ce moment, je vous dis, je vais dans les écoles communales, et je parle d'astronomie aux enfants entre 5 ans et 10 ans. Voilà. Et je prends un plaisir énorme.
Christophe Galfard fait exactement la même chose que vous. C'est vrai, c'est vos passions aussi respectives.
Et oui, les enfants, d'abord, les enfants, ils aiment jouer, ils aiment se poser des questions. ils aiment les clowns, je dirais. Et moi, j'ai beaucoup pensé à eux en écrivant ça.
Est-ce qu'ils posent beaucoup de colle aux clowns, d'ailleurs, les enfants, Cédric Auboui? Est-ce que parfois, vous n'avez pas de réponse à leurs questions?
Non, en général, on y arrive. Mais c'est-à-dire le clown ou l'acteur là,
le clown.
Mais le clown, il va toujours, il va répondre de travers. Hein, le clown, il se trompe à la place de l'élève justement. Il prend sur lui la culpabilité de l'échec.
Ça, c'est bien,
Il montre que de se tromper, c'est pas grave, qu'on peut apprendre en se trompant. Donc le clown, lui, il y arrive jamais.
Christophe, quand vous êtes confronté à des classes, vous ressortez avec de la transpiration,
non, avec un sourire. Voilà.
Oui, non, mais ça d'accord. Mais est-ce qu'il y a des moments où ça devient compliqué
parfois les professeurs, les enseignants nous disent, vous voulez rester combien de temps avec les enfants? Et moi, je dis 2 heures. Ils me disent, vous êtes complètement malade. 2 heures avec des enfants, ça arrivera jamais. Et il faut les mettre dehors au bout de 2 heures parce qu'ils sortent pas. Il y a 40 mains qui sont levées en permanence. Il y a une soif de connaissance.
C'est vrai que lorsqu'on a des Il y a des enseignants qui nous disent, cette classe est très difficile et tout. Vous allez voir dans ça, ils vont se balader. Ça se passe merveilleusement bien. Chacun. Moi, j'ai des petites techniques, comme les clowns.
C'est quoi les trucs alors pour
Il est simple. Garder l'attention. D'abord, un à la fois. Voilà. Et puis, tu dis ton prénom. Tu t'appelles Aglaé. Très bien. Alors, Aglaé, dis-moi ce que tu veux me dire. Et moi, je suis Jean. Voilà. Donc, ça paraît idiot, mais ça met une bonne ambiance dans
Alors, puisqu'on parle
moi, c'est l'inverse. Ils parlent tous en même temps et ça se passe très bien.
chacun nos trucs.
Vous avez été élève d'Hubert Reeves, Jean Redoux. J'ai découvert ça en regardant un petit peu la doc. Vous avez soutenu une thèse donc avec Hubert Reeves comme directeur de thèse. C'était quoi votre sujet thèse? Parce qu'on les gagnants de ma thèse en 180 secondes.
C'était l'action des réactions nucléaires de très haute énergie à la surface des étoiles et dans le rayonnement cosmique. Donc ça fabrique en fait 3 éléments de la table de Mendeleïev, le lithium, le beryllium et le bore. Voilà, qui ont une histoire très particulière parce que justement leur masse est très très différente de leurs voisins et donc le E égale MC2 intervient sur ces 3 éléments.
Il y avait une question de Sarah d'ailleurs, Christophe Galfard. Est-ce qu'il y a une part de sérendipité, donc de hasard, dans la découverte de égale MC2?
Il faut imaginer Einstein au début du siècle dernier travaillant comme assistant à l'office des brevets à Berne en Suisse et qui donc n'avait pas accès, il n'y avait évidemment pas internet, etc. Il n'y avait pas de bibliothèque ouverte le soir, etc. Donc il était dans son coin à essayer de trouver des principes qu'il a trouvés, qui sont devenus la relativité restreinte. Et une des conséquences de la relativité restreinte, qui n'était pas son but au départ, c'est ce fameux égal MC2.
Ouais. Donc le hasard, donc effectivement. Le hasard. Il a bien joué.
Mais ça, c'est très important, je crois, le hasard, de la sérendipité en science. Ouais. Et d'ailleurs, CNRS Édition va faire paraître un bouquin sur le rôle des erreurs. Vous parliez, le clown fait des erreurs. Mais les erreurs, c'est très, très important.
Ah oui, c'est important. Et dans la sérendipité, il ne faut jamais oublier que ce n'est pas uniquement la découverte due au hasard, mais il faut aussi s'être préparé à recevoir cette découverte, c'est-à-dire être en état de voir ce qu'on trouve par hasard.
Ah oui, tout à fait.
Et de l'interpréter.
De le comprendre.
Ouais. Alors, dans ce cahier sur les origines de l'univers, Jean Audouze contemplait le ciel, l'univers, les grandes structures et les galaxies, les étoiles visibles et les constellations, notre système solaire, puis la recherche des exoplanètes, comment regarder le ciel aujourd'hui et demain. Ah oui, il y a des choses très pratiques aussi, pour tous ceux qui aiment l'astronomie.
Oui, bien sûr, pour regarder le ciel, etc. On sait. C'est pour ça que je vous parlais de la nuit des étoiles.
Absolument.
On s'est mis dans la peau de familles qui vont acheter un petit télescope et puis qui disent qu'est-ce qu'on va faire avec, voilà.
Est-ce que vous avez vu passer sur Internet, là, depuis hier, cette image extraordinaire de Saturne qui a été faite par un astronome amateur? Je ne sais pas si
non,
vous l'avez vu.
Non, je ne l'ai pas vu.
Vous l'avez vu, Christophe Galfard?
Il me semble l'avoir vu passer.
Elle a été publiée hier par nos confrères de Ciel et Espace. On l'a mis d'ailleurs sur le Facebook de la Tête au Carré. Allez la voir parce que c'est, paraît-il, une des plus belles photos jamais faites de Saturne. Elle est extraordinaire et vraiment, c'est étonnant.
Vous savez que les astronomes amateurs, ils sont très, très importants. D'abord, ce sont eux qui découvrent les comètes, ce sont eux qui étudient les astéroïdes. Enfin, je veux dire, il y a des pans de la recherche en astrophysique qui sont du domaine des amateurs.
Ouais. Jean Audouze, à partir de quel âge on peut jouer à ce quiz? Parce que dites donc, c'est corsé quand même de temps en temps.
10-12. Oui. Un petit peu. Mais avec l'aide des parents.
C'est ça. Il faut se faire, et c'est le but, hein.
Les enfants peuvent aussi aider les parents à répondre aux questions.
Ouais. Quelle est la question à laquelle vous aimeriez vous avoir une réponse, Jean Audouze? La grande question en suspens aujourd'hui en astronomie.
Pour moi, la grande question en suspens aujourd'hui, c'est effectivement avant le Big Bang.
Ouais.
Et ou bien est-ce que cet univers est le seul, ou est-ce qu'il y en a une,
plein d'autres, ribambelle.
Ribambelle.
Bon.
Ou qu'est-ce qu'il y a dans le vide? Voilà des questions.
C'est aux origines de l'univers, donc c'est un hors-série, Le Monde, avec le CNRS édition qui sort dans les kiosques aujourd'hui. 200 quiz et jeux pour connaître les origines de l'univers ou les origines de l'homme, parce que ça sort également aujourd'hui avec Sophie Fromager et Patricia Laporte-Muller. Et puis Christophe Galfard, E égale MC2, l'équation de tous les possibles, c'est chez Flammarion. Et Cédric Auboui, À l'envers de l'inversion, petit essai en clownologie mathématique aux éditions L'Île Logique sur l'illogique.fr. Et puis également à l'épicerie chez Bouquin à Grandchamp dans le Morbihan. Merci beaucoup à tous les trois. Passez un très très bon week-end. Il est 14h45. C'est l'heure de retrouver la campagne officielle pour les législatives.